Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Avant de commencer, je voudrais vous faire écouter une des chansons que Yves, mon invité d'aujourd'hui, a écrite. Yves est un rappeur qui écrit énormément de chansons sur la fécondation in vitro, la PMA, l'adoption et le désir de parentalité. J'ai trouvé que ce serait une bonne idée pour nous plonger dans son univers de commencer par sa chanson qui s'appelle In vitro. Si vous voulez la trouver, rendez-vous sur YouTube sur son compte Ornicard, O-R-N-I-C-A-R-D. C'est parti.
C'est l'objectif d'une vie, on le ressent comme cela. Si tu m'écoutes ou tu me lis, pour qu'il se réalise, on se bat. Le désir est fort, comment se consoler? Ou bien ne jamais atteindre le sommet. Ne pas perdre espoir ou arrêter d'y croire. Dur de se réjouir quand les autres l'ont. Sortir de sa tristesse, aller au-devant. Plus que jamais prêt à faire que nos vies ne tournent plus qu'autour de la sienne. Conçue de l'amour qu'on se porte, que nos gènes se mélangent. Si tu nais, c'est l'ange car un miracle aussi fantastique que la nature et son mille pattes. En attendant pour maman ses piqûres et chaque échec lui rend la vie dure. Mais si sûr qu'on y arrivera avant de réussir à écrire, il y a des ratures. Alors on carbure une nouvelle in vitro. Être parent et SDP illico. Je veux être père, papa. Elle veut être mère, maman. Alors on carbure une nouvelle in vitro. Être parent et SVP illico. Je veux être père, papa. Elle veut être mère, maman. De nouveau pas de chance, ça me déprime. Comme un rêve, ça attendra. Toute ascension commence par en bas. C'est terminé, peu importe les probabilités. À tout prix, on veut y arriver. Laisser les empreintes de notre amour et le crier sur les toits enceintes. Effacer les sangs pleins d'échecs et oublier l'adversité. Toutes les larmes vidées, enfin briller pour que ça se passe. Prier, souhaiter, on n'est pas les seuls et ça peut nous vous aider. Aller au-devant de l'injustice et de la faire plier comme Ulysse. Nos forces unissent et donc sur la réussite tu mises. On oublie les supplices, le chemin est long. Un jour c'est bon et l'autre plus. Rien n'est gagné comme au basket jusqu'au dernier panier. Des sections décuplées et il faut l'accepter. Ne pas céder au désespoir, les yeux fixés vers les prochaines tentatives. Et croire en une belle histoire, une happy end. Aussi merveilleux que des vacances en Aquitaine. Alors on carbure une nouvelle in vitro. Être parent et SVP illico. Je veux être père, papa. Elle veut être mère, maman. Alors on carbure une nouvelle in vitro. Être parent et SVP illico. Je veux être père, papa. Elle veut être mère, maman. Alors on carbure une nouvelle in vitro. Être parent et SVP illico. Je veux être père, papa. Elle veut être mère, maman. Alors on carbure une nouvelle in vitro. Être parent et SVP illico. Je veux être père, papa. Elle veut être mère, maman.
Bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole aux femmes et aux couples qui rencontrent des difficultés pour concevoir un bébé. Chaque mercredi, je vous propose de partir à la découverte d'un nouveau témoignage et nous parlons des difficultés à concevoir un bébé et ainsi brisons le tabou autour des questions de fertilité. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston aux États-Unis et je suis moi-même entrée en parcours PMA il y a quelques années. Aujourd'hui, je vous amène en Allemagne à la rencontre de Yves. Lorsque nous avons reçu le mail de Yves, toute l'équipe a été interpellée par son histoire. Impossible de rester de marbre. Une histoire un peu comme dans les films, une histoire extraordinaire. Yves a rencontré sa femme, Daniela, sur Twitter il y a quelques années, et vite, l'envie de devenir parent s'impose à eux. Après un an d'essai naturel, Daniela demande à Yves d'aller faire un spermogramme qui malheureusement s'avère mauvais. Devant gérer la culpabilité d'imposer un parcours de PMA à sa femme et faisant face à ses propres peurs, Yves me raconte les 7 transferts et la grossesse biochimique qu'il a vécue avec sa femme. Ayant toujours été lui-même ouvert à l'adoption, il aura fallu quelques mois à sa femme pour le rejoindre dans ce nouveau projet, jusqu'au jour de ce fameux coup de téléphone où on lui demande d'arriver de toute urgence, suivi de la rencontre avec sa merveilleuse fille, Kim Jolie. Et un mois plus tard, sa femme n'ayant pas eu ses règles, Daniela et Yves ne s'inquiètent pas. Après tout, ils viennent de vivre une sacrée aventure émotionnelle. Sauf que, en fait, un petit embryon est venu se nicher naturellement au creux du ventre de Daniela. Et c'est quelques mois plus tard que naît la petite Clara. Aujourd'hui, Yves veut partager son histoire, hors du commun. Il veut partager l'espoir, il veut partager sa joie. Découvrez avec nous son histoire pour devenir papa 2 fois en moins d'un an en Allemagne. Bonjour Yves, bienvenue sur le podcast.
Bonjour Anne-Fleur.
Comment vas-tu et d'où est-ce que tu nous parles?
Alors je vais très bien et je te parle d'Allemagne, plus exactement à Ludwigshafen.
Oh là là, c'est où ça?
C'est à côté de Mannheim, si ça te dit peut-être quelque chose.
C'est de quel côté de l'Allemagne alors? Dans quel coin?
Rhénanie-Palatinat. C'est environ à 2 heures de route de la France.
D'accord, donc pas trop loin. Tu viens de quel coin du coup de France?
De France, très proche de l'Allemagne. Je viens de Lorraine, de Moselle.
D'accord, ok, super.
Du coup, les 2 heures, quand je te dis 2 heures de route, c'est vraiment jusqu'à chez mes parents.
Sympa, c'est bon, c'est un bon point de repère, ça, c'est cool. Ok, ça fait longtemps que tu es en Allemagne?
Ça fait un bout de temps, ça fait peut-être au total, je dois bien être proche des 10 ans.
D'accord.
Je suis en Allemagne.
Super, bon, d'accord. Alors, tu m'as contacté pour raconter ton histoire et je te remercie parce que je suis très heureuse de partager votre histoire aujourd'hui avec nos auditeurs. Est-ce que tu peux me raconter avec qui tu t'es lancée dans le projet de devenir papa?
Alors, je me suis lancée dans le projet de devenir papa avec ma femme, Daniela, qui a aujourd'hui 35 ans, pas aujourd'hui, non, qui a 35 ans. Et on s'est lancé dans ce projet en 2014.
D'accord.
Juste après qu'elle ait été officiellement devenue, ou qu'elle soit devenue officiellement fonctionnaire, parce qu'elle travaille pour la ville de Mannheim dans les ressources humaines pour les kindergarten.
D'accord. Donc pour les maternelles.
Et nous, on s'était dit, on veut la sécurité. Et donc on a attendu jusque-là pour se lancer dans notre désir d'enfant.
D'accord.
Il faut savoir que notre parcours, on a eu aussi plusieurs étapes dans notre relation. Au début, on avait une relation à distance.
Ah ouais.
Et après, j'avais un contrat à durée déterminée qui s'est terminé au bout de 2 ans et j'ai tout quitté pour elle. Je suis allé vivre chez elle, justement à Ludwigshafen.
Et comment est-ce que vous êtes rencontrés avec Daniela?
Alors nous, on s'est rencontrés sur Twitter.
Sérieux? Génial. Raconte un peu.
Parce que on aime bien le même chanteur allemand et elle avait écrit un tweet auquel moi j'ai répondu. En fait, moi j'ai cherché des tweets sur le chanteur pour un peu discuter de ma passion sur ce chanteur et c'est comme ça qu'on est entré en contact.
C'est complètement fou cette histoire. D'accord.
Ouais, au début en fait, on a téléphoné un mois environ jusqu'au premier vrai rendez-vous. Et ce premier vrai rendez-vous, on l'a fait au milieu. Elle travaillait encore à l'époque à Kaiserslautern et moi, je travaillais en Bavière. Et on a regardé sur une carte et on s'est rencontrés finalement à Aschaffenburg. Et dès notre première rencontre, on est devenu un couple. Et finalement, des années après, on s'est remariés dans la mairie de cette ville.
Ah ouais, le symbole.
Aschaffenburg.
D'accord.
Le symbole.
Super, okay.
Et ce mariage, on l'a fait plus précisément aussi pour pouvoir adopter.
Ah, d'accord.
Parce qu'au début, le mariage, c'était pas tellement important pour nous. Et comme pour l'adoption, il faut un mariage. Et moi, je dis toujours, pour moi, c'est plus important. Le mariage, il n'est pas tellement important pour moi. Pour moi, c'est important la décision de vouloir des enfants ensemble. Pour moi, c'est une décision plus importante. Parce que quand on veut des enfants ensemble, on veut aussi une stabilité. Et on veut pas se séparer.
Donc le mariage du coup est arrivé un petit peu plus tard. On va reprendre chronologiquement pour pas perdre nos auditeurs. Donc du coup en 2014, donc vous décidez que vous êtes prêt à avoir un enfant. J'imagine que vous commencez vos essais de manière complètement naturelle. Dans quel état d'esprit est-ce que vous vous lancez et comment ça se passe alors?
On se lance dans un bon état d'esprit, on est confiant. Et donc Daniel arrête la pilule et finalement il se passe rien.
Okay.
Et on essaye aussi de timer tout ça sans résultat. Et on essaye pendant une année sans vraiment se mettre la pression et sans stresser. Et on se dit, OK, ça marche pas. Ça, c'est peut-être lié à l'arrêt de la pilule, aux hormones, etc. Et on se dit, ben maintenant, il faut consulter après un an. Et c'est là que moi, je commence à consulter. Donc, c'est moi qui a dû faire le premier pas. Ma femme m'envoie faire un spermiogramme.
Et ils ne lui ont même pas donné à elle d'examen, ils ont commencé par toi, du coup, c'est ça?
Alors nous on a décidé nous-mêmes de se lancer là-dedans. Et donc, on a dit, on teste d'abord chez moi, si tout est en ordre.
Okay.
Ce test n'était pas de bonne qualité.
C'était quoi, du coup, les résultats quand tu dis que ce n'était pas de bonne qualité?
Je ne sais plus, ils n'étaient pas assez en forme pour pouvoir procréer, quoi. Il y a des termes techniques que je pourrais pas te dire en français.
Il n'y a pas de problème, t'inquiète. D'accord, donc tu as ces résultats-là. Donc toi, tu es passé chez l'urologue. Donc du coup, est-ce que l'urologue t'explique que c'est pour ça qu'au bout d'un an, Daniela n'est toujours pas enceinte? Et comment ça se passe du coup, la prise en charge à partir de là? Est-ce que vous vous dites, c'est tout? Enfin, c'est tout, on va aller voir pour nous aider à faire un traitement pour que Daniela tombe enceinte? Ou est-ce que Daniela aussi doit passer par une batterie d'examens pour être prise en charge? Comment ça se passe en Allemagne, la prise en charge là-dessus?
En fait, mon urologue, ça ne s'est pas très bien passé parce qu'il m'a donné les résultats dans le hall d'entrée et il a dit devant tout le monde que les résultats n'étaient pas bons.
C'est pas vrai.
Et du coup, moi, j'ai dit, je ne veux plus aller chez cet urologue.
Bah ouais, je comprends.
Parce que j'avais même un rendez-vous pour un deuxième test chez lui et on a dit, non, on va faire ça autre part.
Ah ouais, d'accord.
Et là, on a pris contact avec un centre à Ludwigshafen de PMA. Et là, j'ai repassé donc un test là-bas et ils ont aussi fait des examens sur ma femme.
D'accord, donc elle a aussi été un peu testée.
On n'a rien trouvé chez ma femme. Le responsable, c'était moi en quelque sorte.
D'accord.
Donc là, ça donne aussi un petit coup sur le moral parce qu'on se sent vraiment responsable de la situation.
Ouais. Comment est-ce que tu as vécu justement ça et comment est-ce que vous avez vécu ça en tant que couple, cette annonce et de découvrir qu'il y a un petit souci technique quoi chez toi?
Au début j'ai eu un peu de mal parce que je me suis senti responsable et après j'ai dû l'accepter et on est tout de suite resté positif parce qu'il y a plein de solutions pour tomber enceinte avec les nouvelles méthodes de procréation médicale assistée. Et du coup, on s'est dit, on se lance là-dedans. Et pour nous, donc, à cause de ces résultats qui étaient toujours après pas bons, notre seule possibilité, c'était de faire
une FIV.
Une FIV, exactement.
D'accord. Ok. Bon, très bien. Donc, du coup, ouais, vous êtes confiant. Vous dites, ok, très bien, on va nous aider. Et puis, ça va bien se passer, quoi. Donc, vous vous lancez donc dans ce protocole. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que Daniela réagit bien au traitement? Et voilà, quels sont les résultats? Combien de tentatives est-ce que vous faites? Comment ça se passe?
Alors, elle réagit très bien aux résultats. Et aussi, nous, avant de commencer le traitement et tout ça, on a dû aussi prendre contact avec l'assurance. Parce que nous sommes dans un cas particulier. Il faut savoir qu'en Allemagne aussi, les PMA ne sont pas aussi bien prises en charge qu'en France. En France, vous avez de la chance. En Allemagne, on a 3 essais. Il y a 2 cas possibles. Ou on est assuré en privé, ou on est assuré par l'État. Si on est assuré par l'État, on n'a que 3 essais et l'État ne rembourse que 50%.
Ah ouais, d'accord.
Si on est assuré en privé, ma femme est privée parce qu'elle est fonctionnaire et moi, je suis assuré par l'État. La caisse privée prend en charge 100% des cas, 100% des frais, je veux dire, seulement si ma femme est responsable et ça ne marche pas naturellement. Et comme ils n'ont rien trouvé chez ma femme, ils ont dit, on prend rien en charge, la caisse privée.
Ah ouais, et oui, d'accord. Et ça représente quoi comme coût, justement, du coup?
Ça représente par essai 6 000 euros à peu près.
Ah, waouh, par essai. Oh, vache.
Ouais.
D'accord, ok. Et alors, du coup, c'est un gros budget quand même. Je ne connais pas votre situation financière tous les deux, mais j'imagine que c'est quand même conséquent. Comment est-ce que vous vous organisez du coup pour ces tentatives? Bien sûr, on espère quand on se lance qu'il n'y en aura qu'une, mais on sait qu'il y en a eu plus d'une. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu du coup comment se passent les différentes FIV de manière générale, et puis pour votre couple, comment ça se passe là-dessus?
Alors, on a commencé donc avec une première FIV. Et le traitement s'est très bien passé. Et finalement, dès notre première FIV, on était déçus parce que ça n'a pas fonctionné. Et du coup, on a continué. Et le problème aussi, c'est ma femme avait vraiment une obsession. Elle voulait vraiment, dès qu'il y a un échec, tout de suite continuer, sans se laisser de pause.
Et les centres là-bas n'imposent pas de pause entre les essais?
Ils conseillent de faire un mois de pause. Mm-hmm. De toute façon, pour que le cycle
recale bien.
Est de nouveau en ordre pour continuer, il faut de toute façon avoir ce mois à peu près. Mais on aurait pu faire 2-3 mois, etc. Bon, après le premier essai, pour moi, c'était OK, on peut continuer assez rapidement sur le deuxième essai. Mm-hmm. Mais après le deuxième, j'ai eu déjà plus de soucis à accepter qu'on continue à cette allure. Il faut savoir que quand ma femme a été stimulée, on a eu beaucoup de production d'ovules et qu'on a pu congeler, qui était aussi le cas à chaque fois.
D'accord.
Elle a vraiment très très bien réagi au niveau des hormones, que la production était à chaque fois très bonne et qu'on a pu en congeler. Et donc, on a pu faire une cryo. Ou je sais plus comment ça s'appelle le terme technique en français.
Je sais quand plus. Quand on mais en prend des congélation des embryons qui ont été fécondés, quoi.
Exactement. Ouais. Mm-hmm. Et donc autour on a eu 7 transferts avec aussi à chaque fois que ça a été congelé. Et ma femme était très affectée souvent.
Ouais.
C'était assez difficile.
Et toi, comment t'as vécu tout ça?
Moi, j'étais triste. Moi, j'ai beaucoup écrit sur le sujet, j'ai fait des chansons sur le sujet parce que à côté je fais aussi de la musique, du rap, et que moi le rap ça m'a aidé à digérer tout ça.
D'accord, ok. Donc en allemand du coup j'imagine le rap.
En français.
En français. Ah bah faudrait que tu nous envoies alors peut-être une chanson qu'on pourra diffuser dans l'épisode.
Super, ouais. En fait toute mon histoire comme c'est ma vie, mon histoire, il y a des chansons sur l'adoption, des chansons sur fécondation in vitro, il y a tout en musique en fait.
Ah, il faudrait que tu nous envoies ça alors, ouais.
Ça roule, ouais.
Vous faites 7 transferts. Ça se fait du coup sur combien de temps tous ces transferts? Parce que c'est quand même sacrément conséquent. Avec en plus
sur 2 ans.
Ouais, sur 2 ans. D'accord. Ok. Donc tous les tests sont systématiquement négatifs?
Non, justement. Un test a été positif, mais quelques jours après, négatif. Et nous, on était trop confiants. Une fois que ça a été positif, on croyait déjà que c'était gagné et on a fêté ça. Je me souviens que mon beau-père et ma belle-mère nous ont invités chez eux et on a commandé un restaurant à emporter et qu'on a fêté ça vraiment et que le jour d'après, on apprenait la terrible nouvelle. L'embryon se développait pas correctement et qu'elle allait perdre. On dit ça une grossesse biochimique. C'est une fausse couche qu'on n'aurait même pas remarqué si on n'avait pas testé cela aussi précisément que lors d'une PMA. Il faut savoir qu'il y a énormément de fausses couches avant qu'une femme tombe vraiment enceinte. On ne le sait pas et on n'en parle pas beaucoup. Mmh. Mais ça arrive très souvent.
Et justement, vous ne le saviez pas que les fausses couches, c'était finalement assez, assez courant, malheureusement, avant de vous lancer dans ce parcours. J'imagine que c'est quelque chose que vous auriez aimé savoir. Donc, tu pourrais justement transmettre en fait à des couples qui se lancent là-dedans. Qu'est-ce que tu leur dirais?
Je leur dirais, rien n'est gagné d'avance. On a dû l'apprendre sévèrement. Il faut vraiment laisser le temps et être confiant, mais pas être tout de suite super heureux. Il faut être prudent, de la prudence.
C'est vachement dur d'être prudent quand il y a quelque chose que tu attends depuis des années. Ok, donc du coup, vous êtes à 7 transferts. Malheureusement, donc Daniela n'est toujours pas enceinte au bout de 2 ans. Qu'est-ce qui se passe? Parce que du coup, ça représente un budget absolument dingue, non?
En fait, il faut savoir que c'est moins cher si on a des embryons fécondés congelés. Mm-hmm. Faut compter 2-3 000 euros.
D'accord, ça reste quand même conséquent.
Ça reste quand même conséquent.
Ouais.
Après, il faut savoir aussi qu'on a eu, sur la déclaration d'impôt, on a quand même reçu pas mal d'argent en retour.
Ah ouais?
Après, il faut le savoir. Mm-hmm. Pour ceux qui habitent en Allemagne, si vous êtes dans un cas similaire, allez faire votre déclaration d'impôt et mettez ces frais dans la déclaration. Peut-être qu'on a dépensé sur le coup peut-être 12 000 euros quoi, au final.
Et donc, à l'issue de ces 7 transferts, qu'est-ce que vous décidez de faire? Ou est-ce que le centre vous dit, bon, bah, ça marche pas, peut-être qu'il faut qu'on change les protocoles, peut-être qu'il faut que vous envisagiez autre chose? Comment est-ce que ça s'est passé?
Alors, on a changé les protocoles. On a fait un dernier test aussi, un dernier essai qui n'a pas fonctionné, mais où là, on a encore 2 embryons fécondés congelés. Et maintenant, on a cette question morale, que faire de ces embryons dans le cas où nous sommes actuellement maintenant?
Est-ce que vous pouvez les donner?
Possibilité de les donner, ouais, il y a aussi cette possibilité, mais nous, on a un problème aussi, si on les donne, que c'est vraiment anonyme. On aimerait attendre que les lois changent pour qu'il y ait une possibilité, si jamais avec ces embryons, il y a un enfant qui va naître, qu'il ait la possibilité de savoir vraiment qui il est, par rapport à son identité et de pouvoir un jour peut-être nous contacter.
D'accord.
Parce que nous, on a appris aussi par tout ce qu'on a appris sur l'adoption que l'identité c'est très important et que aussi nous on souhaitait pas faire une adoption où l'enfant n'a aucune possibilité de connaître ses origines et de connaître ses parents et son identité.
D'accord.
Et nous on veut pas recréer ça en donnant ces embryons sous ces conditions.
Très bien. Alors, raconte-moi un petit peu, donc, quelles sont vos options à ce moment-là et qu'est-ce que vous décidez de faire tous les deux, alors?
Alors, pendant notre parcours, j'ai toujours dit à ma femme que moi, j'étais très ouvert pour l'adoption, que ça ne me dérangerait pas si elle est d'accord qu'on se lance dans cette aventure. Et elle a dû faire son chemin, elle a dû faire son deuil de l'enfant maternel jusqu'à ce qu'elle accepte cette idée. Il lui a fallu plus longtemps que moi. Et une fois qu'elle était d'accord, c'est elle qui a lancé les démarches. C'est elle qui a contacté le centre d'adoption de notre ville. Il faut aussi savoir qu'à un moment, vers la fin de nos PMA, elle était suivie psychologiquement. Et ça lui a aussi aidé. Et je trouve que c'est important aussi de, dès le début, si c'est possible, d'avoir ce suivi psychologique. Ça, c'est aussi un conseil que je donne. Mais je crois qu'en France, c'est différent. Je crois qu'en France, on est tout de suite au début.
Je crois qu'il y a une consultation obligatoire au début, mais qu'après, il n'y a pas de suivi obligatoire.
Et ben, chez nous, il n'y avait même pas de consultation au début.
D'accord, ok. Et toi, personnellement, est-ce que toi, tu as eu besoin... comment est-ce que tu as... Est-ce que tu t'es fait accompagner pour arriver justement peut-être à cette conclusion que tu serais très heureux finalement de devenir papa par l'adoption? Comment est-ce que t'es arrivé à ces conclusions? Il y a quand même un gros cheminement personnel pour arriver là.
Non, moi je j'aime les enfants en général et j'ai jamais me suis jamais posé la question maintenant de pouvoir aimer un autre enfant moins que son propre enfant génétiquement. Ça a toujours été comme ça. Ma vision d'un enfant et de l'adoption. Du coup, j'ai pas vraiment eu trop de mal à aller dans cette direction. Et j'ai pu faire assez vite le deuil de ne pas avoir d'enfant.
D'enfant
biologique. Exactement, ouais. On s'est quand même dit, on s'est dit, une fois qu'on a eu notre enfant adopté, on s'est dit, on va continuer d'avoir des rapports non protégés. On s'est dit, si ça arrive, ça arrive.
Donc
même dans toute l'adoption, je me suis jamais dit, ça n'arrivera jamais un jour. Mm-hmm. La probabilité que ça arrive est très faible, mais je me suis jamais dit jamais.
D'accord.
Du coup, ça reste un optimisme.
Donc du coup, donc tu en parles à Daniela. Daniela a besoin de temps, elle aussi, pour arriver à cette conclusion. Et puis, finalement, ça y est, elle est d'accord. Vous lancez, du coup, les démarches. Ça ressemble à quoi, les démarches en Allemagne pour adopter?
Alors, les démarches, la première étape de la démarche, c'est que ma femme, elle a simplement envoyé un email et on a été invité au centre d'adoption. On a eu un premier rendez-vous où ils nous ont un peu expliqué comment ça se passait. Et après cette première entretien, on a eu un grand dossier à remplir d'environ peut-être 20 pages oui, vraiment, ils analysent d'où on vient, dans quel environnement on a grandi. Tout est vérifié. Et je pense que même des gens qui n'étaient pas vraiment motivés ont pu déjà, rien que par devoir remplir ce dossier, ont pu décider d'arrêter déjà.
Donc cette étape, en fait, c'est plus ou moins ce qu'en France, fait, ça s'appelle avoir l'agrément.
Oui, exactement.
Donc c'est...
Ouais.
D'accord.
On n'a pas vraiment eu beaucoup de réunions seules avec les deux personnes qui s'occupent du centre de Ludwigshafen. C'est que nous, on a beaucoup fait en groupe. On a fait des séminaires.
D'accord.
C'était 5 rendez-vous, 5 après-midi, où on était des groupes de personnes voulant adopter. Et on était environ 7 à 10 couples. Et ça, c'était donc avec un psychologue.
D'accord. Oh, c'est super comme prise en charge. D'accord. Ça permet aussi de connecter, du coup, avec des gens qui passent par la même chose que vous. J'imagine que c'est d'avoir un côté un peu rassurant, en fait, de poser des questions ensemble.
C'est des gens qui ont beaucoup aussi essayé d'avoir des enfants naturellement et par procréation médicale assistée. Et du coup, on s'est très vite senti très proche de ces personnes. L'inconvénient, peut-être, c'est que ça crée une concurrence.
Vous vous dites, s'il y a un enfant qui a besoin, ce sera eux ou ce sera nous, quoi. Vous vous dites pas, on aura tous.
Voilà, exactement. On nous donne aussi avant des statistiques que c'est seulement 2-3 enfants par an, ce qui est déjà quand même assez élevé.
Ah ouais.
Si on prend peut-être des statistiques de la France ou d'autres d'adoption à l'étranger, il faut savoir que le groupe où on était, c'est pas tous les parents qui veulent adopter, hein. Il y a des parents qui veulent adopter qui attendent des années et des années. Ça fait qu'il y a peut-être un pool beaucoup, beaucoup plus grand. Et on sait pas combien, en fait. Il y a des personnes qui veulent adopter qui n'ont pas encore pu adopter. Alors, on se dit quand même que la probabilité de recevoir un enfant n'est pas très grande. En tout cas, on a été très bien préparé par le psychologue parce qu'un enfant adopté a des besoins différents. Et adopter un enfant, c'est beaucoup plus compliqué. Ou élever un enfant adopté, c'est beaucoup plus compliqué qu'un enfant biologique. Parce qu'il y a un traumatisme, cette séparation et cette perte d'identité. Et là, il faut gérer. Et c'est tout ça qu'on nous apprend, comment réagir et que faire quand des questions arrivent. Et aussi, on nous apprend aussi à tout de suite être ouvert sur l'histoire de son enfant, en tout de suite lui raconter à l'enfant et à des parents biologiques, et tout de suite commencer, on peut tout de suite raconter l'histoire dès que l'enfant est né, pour vraiment, dès le début, lui imprégner cette histoire, qui est son histoire. Et ça a été très bien fait, je trouve.
Ouais, ça, on dirait que vous avez été bien accompagné là-dessus, effectivement. D'accord. Donc, à l'issue de tout ça, donc, vous recevez votre agrément. Du coup, on vous dit qu'il n'y a que 2-3 enfants par an. Du coup, j'imagine qu'on vous fait comprendre que c'est possible que ça vous prenne des années, quoi, avant de trouver votre enfant. Comment est-ce que vous gérez cette attente? Parce que c'est quand même, vous avez eu l'attente des essais naturels, puis l'attente de la PMA, puis l'attente de l'adoption. On est humain, quoi. Ça commence à faire long, c'est difficile psychologiquement. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous?
On espère. On se dit, ça peut arriver du jour au lendemain. Il suffit d'un appel pour que ça arrive. Aussi, un point que je voudrais détailler, c'est que aussi la décision de recevoir un enfant, elle est très subjective. C'est une décision de comment le psychologue nous a trouvés, comment les deux employés du centre de Ludwigshafen nous ont trouvés. C'est très aléatoire. Et c'est donc aussi très personnel. Du coup, nous aussi, on a dû se vendre. Nous, on s'est battu pendant ces séminaires.
Ah ouais, d'accord. Là, donc, c'est une vraie compétition.
Oui, c'était vrai. C'est vraiment une compétition.
Dur.
Nous, on a participé, on a tout donné. On a essayé de se montrer sous le meilleur jour possible.
C'est hyper dur, ça. Enfin, c'est presque inhumain, quoi, de vous faire, de vous mettre en compétition les uns avec les autres. En fait, tu disais que c'était une compétition un peu inconsciente, tu vois, que tu regardes les autres en te disant, j'aimerais avoir un enfant avant eux, mais en fait, non, c'est le procédé, en fait, veut que vous soyez en compétition, que vous vous battiez un peu les uns contre les autres.
Voilà. Au moment où tu sais que c'est une décision très subjective, au moment où ils te disent que c'est eux qui prennent la décision, par rapport à comment ils se sentent, par rapport à l'enfant, quel enfant irait bien avec tel parent, tu te dis, il faut que je me batte. Et c'est exactement ce qu'on a fait.
Et alors, qu'est-ce qu'on fait pour se battre?
Qu'est-ce qu'on fait? On participe pendant ces séminaires, on est volontaire. quand il y a des exercices à faire, on parle beaucoup pendant ces séminaires, on se met en avant. C'est comme quand on est à l'école.
Ouais, tu veux qu'ils te connaissent et qu'ils aiment le profil de votre famille. D'accord.
Exactement.
Ok. Est-ce qu'on vous donne une estimation un peu du temps que ça peut prendre pour rencontrer votre enfant, enfin pour avant de recevoir ce fameux coup de fil?
Aucune estimation. On a aussi appris que parfois ça peut arriver très vite.
D'accord.
Aussi, après ces 5 séminaires, il y a aussi un séminaire important où vraiment ça nous a fait plaisir. Au moment aussi, c'était un signe pour nous qui nous aiment bien. C'est quand ils nous ont invités à un séminaire avec des parents qui ont déjà adopté des enfants. Et là, ils ont invité 3 couples. Et nous, on s'est dit, waouh, on a été présélectionnés sur les 10 couples.
D'accord.
Et du coup, on s'est dit, ben, c'est un bon signe déjà ça. Après ce séminaire, il y a un des 3 couples qui a eu un enfant.
Ah ouais, et vous le savez en fait.
Et nous, on l'a su parce que les 2 personnes du centre les ont appelés à la fin du séminaire, après qu'on ait déjeuné ensemble. Et on s'est dit, OK, s'ils veulent discuter avec eux, c'est qu'ils ont un enfant.
D'accord.
Et on a aussi appris que souvent, ça s'était déjà passé avec d'autres couples qui ont tout de suite après le séminaire eu un enfant.
Wow.
Et là, il y a un peu de jalousie, on se dit pourquoi pas nous. Mais il faut aussi savoir que chaque couple a un profil différent. Chaque couple décide de quel enfant ils veulent. Est-ce que je suis d'accord d'adopter un enfant qui est handicapé? Est-ce que je suis d'accord d'adopter un enfant en Allemagne, on dit Klappenkind, qui a été abandonné et anonymement.
Mm-hmm.
Est-ce que j'aurai la force d'élever un enfant où j'ai aucune possibilité de lui donner son identité? Et nous, on a dit, nous, on veut pas ce cas-là. Nous, on veut, si on adopte un enfant qui soit en santé et un enfant où les parents biologiques, du moins, au minimum, la mère, soient connus.
D'accord.
Et finalement, on a appris donc que ce couple qui a eu un enfant, c'était un enfant qui a été donné anonymement. Ça fait que D'accord. nous, on aurait de toute façon eu aucune chance d'avoir cet enfant, parce que nous ne voulions pas ça.
D'accord. L'adoption, du coup, se fait auprès d'enfants qui sont nés en Allemagne, ou est-ce que vous avez considéré aussi l'étranger?
Nous, on n'a pas considéré l'étranger. Nous, on s'est complètement D'accord. focalisé sur l'Allemagne. Parce qu'il faut savoir que nous, on a un centre à Ludwigshafen, mais il y a un centre à Mannheim. Il y a un centre à Bad Kreuznach. Et nous, notre centre de Ludwigshafen, on avait un bon dossier aussi au final, un très bon agrément, a donné notre dossier à d'autres centres.
Ah ouais, donc vous aviez plus de chances que ça aille un petit peu plus vite, quoi, finalement.
Voilà.
Bon, et alors, donc, du coup, finalement, l'attente n'a pas été si longue.
Non, n'a pas été si longue. Je vais te raconter quand même encore une histoire assez déception encore. La deuxième déception, c'est que sur les 3 couples, le deuxième couple a aussi eu un enfant. On l'a appris et a peut-être eu un enfant 3-4 mois avant que nous ayons eu notre enfant. Et ce qu'il y a vraiment, où vraiment on était très triste, c'est que nous, on avait, si on reçoit un garçon, un prénom favori qui est Matteo. Et eux ont eu un enfant qui avait exactement ce prénom. Et du coup, ça nous a quand même donné un coup sur le moral, quoi. Pourquoi eux ont été choisis et pourquoi cet enfant? Quelle bizarre coïncidence. Ils reçoivent un enfant et il a exactement le prénom, notre prénom préféré. Okay. Et finalement, on a aussi appris plus tard que cet enfant a été adopté abandonné anonymement. Qui fait qu'on était aussi pas dans les parents qui auraient pu être sélectionnés.
Ouais, d'accord. Donc finalement, tout s'explique. Okay.
Tout s'explique. Mais au début, on sait pas ça. Tu sais, au début, dès qu'on l'apprend, tu vois, on est choqué et on sait pas. Ça, on l'a appris un peu après.
C'est chouette que vous ayez pu l'apprendre quand même, hein, parce que j'imagine que les gens peuvent un peu garder leur histoire pour eux aussi. Donc du coup, finalement, il y a eu quelques grosses déceptions, mais finalement, c'est un parcours qui s'est passé beaucoup plus rapidement que le PMA.
Ben, on peut dire un an après, on a eu à peu près ce fameux coup de fil. Là, j'étais au travail et ma femme m'appelle et me dit on doit aller tout de suite au centre parce qu'ils veulent discuter avec nous. Et là, on savait si on doit aller dans les... Ils nous ont dit, en 20 minutes, on doit être là-bas.
En 20 minutes ?
Ouais, et on sait quand on a un appel comme ça qu'ils ont un enfant.
Ah ouais, donc grosse émotion.
Grosse émotion, et du coup, je suis parti tout de suite de mon boulot, et ma femme aussi, et on est tout de suite allé au centre. Mmh. Et là, ils nous ont dit, est-ce que vous avez déjà un prénom de fille? Et là, beaucoup, beaucoup d'émotions.
Vous aviez un prénom de fille?
On n'avait pas de prénom de fille, non. Et là, ils nous disent, on a un enfant, on a une petite fille. On vous laisse, c'était un vendredi, on vous laisse le week-end pour prendre la décision. Réfléchissez bien, on veut votre réponse lundi. Si vous voulez cet enfant.
D'accord.
En fait, ils laissent toujours une nuit pour réfléchir.
Mm-hmm.
Et en fait, ben nous, c'était vraiment l'enfant idéal parce qu'il correspondait vraiment à ce que nous voulions. Du coup, on n'avait vraiment aucune raison de dire qu'on ne veut pas cet enfant. C'était un enfant qui allait normalement être en santé. La mère n'avait pas pris de drogue. C'est aussi un truc où on s'est dit drogue dure, on ne veut pas. Et donc, c'était vraiment l'enfant parfait.
D'accord. Donc, j'imagine que c'était un week-end sacrément mouvementé de votre côté.
Et en fait, nous, on avait déjà pris notre décision. On avait déjà pris notre décision en discutant avec eux. Hein. On savait déjà en
veut. Oui, je comprends bien. Comprends bien. Mais on vous a demandé de prendre le week-end pour réfléchir.
Exactement. Parce qu'il faut savoir aussi que parfois, ils appellent vraiment la veille et l'enfant naît le lendemain.
Oh, wow.
Il y a des couples qui sont appelés vraiment un jour avant et le jour d'après, ils sont parents. Alors, tu t'imagines le temps qu'ils ont pour s'organiser, hein? Ils ont peut-être une matinée ou un après-midi.
Vous étiez prêt? Vous aviez préparé votre maison, vos vies? Étiez prêt?
La seule chose que nous, on avait préparé, c'est que ma femme avait préparé une liste sur Amazon avec les différentes choses qu'on doit commander.
Vous saviez ce dont vous aviez besoin, au moins?
On savait déjà, on s'était déjà posé la question de ce qu'on a besoin pour élever un enfant. Et il y avait cette liste.
D'accord.
Et du coup, on était quand même chanceux parce qu'on avait 2 semaines pour se préparer. Hein.
D'accord. Donc, vous saviez quand est-ce qu'elle allait naître. C'était quoi? C'était une césarienne, du coup?
C'était une césarienne programmée.
D'accord.
Donc, on savait...
C'est vrai qu'en France, on ne sait pas, finalement, avant la naissance de l'enfant. Et généralement, les centres gardent les enfants pendant quelques mois avant de les...
C'est ce que je trouve très, très mauvais.
Ah ouais?
Je suis complètement contre ça.
Pourquoi? Alors, explique.
Parce que, imagine, l'enfant a été séparé. L'enfant a besoin de bonding, a besoin tout de suite d'être pris en charge par ses nouveaux parents, quoi. Hein, pour vraiment que la relation soit dès le début présente. Ça, c'est aussi ce qu'ils préconisent en Allemagne, quoi. Parce que sinon, il y a encore une séparation. Imagine, mm-hmm. Séparation de la mère biologique. Après, l'enfant est mis dans un centre avec peut-être une autre maman. Après, il y a de nouveau une séparation de cette maman. Mmh. C'est séparation sur séparation. L'idéal, c'est d'aller tout de suite chez les parents adoptifs. Et nous, on a eu la chance d'avoir cette situation-là. Après, je dis pas qu'en Allemagne, il n'y a pas de cas où ils sont obligés de mettre l'enfant encore 1 ou 2 mois chez quelqu'un d'autre avant.
Mais on essaye de pas y avoir recours, quoi.
Exactement.
D'accord. Donc du coup, on vous annonce donc qu'une petite fille va naître 15 jours plus tard. J'imagine que vous êtes sacrément heureux, soulagé.
Exactement.
Et en fait, pour des gens qui passent par une grossesse biologique, on a 8 mois à peu près pour se préparer entre la découverte de la grossesse et la découverte de l'enfant. Et vous, en fait, vous avez vécu une grossesse express de 15 jours.
Exactement.
Comment se sont passés ces 15 jours et voilà, comment est-ce que d'ailleurs vos employeurs étaient au courant de vos démarches?
Oui, exactement. Oui.
Ouais. Vous avez pu prendre du temps pour préparer cette arrivée, du coup?
On a pas vraiment pu prendre. Ma femme plus, moi moins. Mon employeur m'a fait un peu de soucis parce qu'il voulait pas me donner rapidement congé. Et puis, parce que moi, j'ai aussi pris, il faut aussi savoir qu'en Allemagne, on reçoit en tant que père 2 mois de congé paternité. Même pour l'adoption, qui sont pris en charge à 65% du salaire par l'État. Et comme on était vraiment là dans une situation particulière, moi, je voulais ces 2 mois tout de suite dès la naissance.
D'accord.
Et du coup, ça a été un peu un choc pour mon employeur, quoi, de plus m'avoir après 2 semaines, quoi. Hein. Mm. Et du coup, j'ai pas eu vraiment tous les congés que j'aurais aimé avoir encore pour me préparer à la naissance. J'ai eu congé un jour avant qu'elle soit née. Et le reste du temps, j'ai dû travailler quand même. Bon, j'ai essayé de faire un peu plus tôt, de finir plus tôt le boulot, quoi. Du coup, je me suis aussi disputé avec des collègues aussi.
Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Parce que mes collègues, certains de mes collègues ont dû me remplacer. Ils étaient pas très contents, quoi.
Mais ils étaient pas contents pour toi?
Ils étaient pas contents parce que je voulais des congés, quoi.
Oui, mais ils étaient pas contents pour toi. Je veux dire, tu passes quand même par un, c'est une grande étape de ta vie, quoi. Ah,
forcément. Ils sont pas pour toi. Ils sont pas tous, apparemment. Pas tous vraiment, quoi.
C'est dur, ça, hein?
Parce que ça a vraiment été un moment difficile avant la naissance de Kim, où j'ai eu beaucoup de stress au boulot à cause de ça.
Ah mince, d'accord.
Parce qu'après, avec mon chef, ça s'est pas bien passé non plus. Et puis mon chef a dit aussi, mais tes collègues étaient super sympas, ils t'ont laissé aller au séminaire, ils t'ont aidé, comprends-les, il faut que tu prennes le temps pour préparer ton départ. Et c'est pour ça qu'ils m'ont pas laissé. J'aurais vraiment aimé avoir 3 jours avant, tu vois.
Mm-hmm.
Pour avoir plus de temps pour me préparer. Et je les ai pas eu ces 3 jours. Parce qu'il fallait que je prépare mon remplacement. Et c'était une situation, du coup, stressante particulière.
Et donc, on arrive fin septembre, la césarienne est programmée. Et comment ça se passe alors? Raconte un peu.
Alors,
la rencontre.
Alors, on nous dit d'aller à 6h, 6h à l'hôpital, 6h du matin, et donc on se rend à Mannheim. Il faut savoir qu'entre nos deux villes, il y a le Rhin, il y a un fleuve. C'est deux villes qui sont vraiment côte à côte. Et pour aller de Ludwigshafen à Mannheim, on passe juste un pont. Donc c'est vraiment très très proche. Et on s'est retrouvés à l'hôpital, et à l'hôpital, on a rencontré donc une des personnes du centre. Et nous, on a attendu dans la salle d'attente de la salle d'accouchement. Et on était très, 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 très stressés.
C'était quand même vachement proche de tout, quoi.
Ah, nous, on a attendu devant. On a attendu devant. On l'a vu peut-être une heure après. Une heure après sa naissance. On a tout de suite vu notre fille. Et il y a eu entre-temps aussi, je crois qu'elle aurait dû naître plus tôt, elle aurait dû naître vers 9h et finalement elle est née vers 10h30. Il y a eu des césariennes en urgence avant.
Ok, et alors cette rencontre, la première fois que vous l'avez vue, tu peux me raconter comment ça s'est passé, ce moment si particulier?
Au début on aurait dû aller dans la salle d'accouchement pour voir notre fille, mais finalement, ils nous ont renvoyés dans un service beaucoup plus haut pour après de nouveau nous récupérer dans ce service, et on a finalement pu aller dans une pièce à côté de la salle d'accouchement, et on est rentré dans la pièce, et notre fille était en train d'être examinée. Elle était allongée sur une table avec la médecin qui était en train de l'examiner. Et du coup, incroyable. Et c'est à ce moment que tu réalises que tu vas être responsable et que tu es papa. Incroyable. J'étais vraiment les larmes aux yeux et j'avais juste un mouchoir en main et j'étais vraiment super heureux et très très ému.
J'imagine, vous avez pu la prendre dans les bras tout de suite? Comment ça s'est passé tout ça?
On n'a pas pu la prendre dans les bras tout de suite parce qu'elle a eu quelques petites difficultés à respirer au début, mais ça s'est très très vite rétabli après les examens. On a juste pu lui... Je te dis quelque chose de faux. Au début, ma femme lui a pris la main. Moi, j'étais incapable de faire quoi que ce soit parce que j'étais dans mes larmes. Et on a pu la porter quand même très rapidement, juste après l'examen. Pu la porter peut-être 5-10 minutes. On a fait notre première photo avec elle. Comme elle avait sous 2,5 kg, elle a dû aller dans le service nouveau-né un peu encore. Du coup, elle était encore un peu à quelques machines pour vérifier le pouls, etc. Et ça fait qu'on n'a pas pu passer la première nuit auprès d'elle. Mais dès le lendemain, on l'a changé de service. Et là, ma femme a pu passer les 2 prochaines nuits avec elle.
D'accord.
Elle a été donc à l'hôpital tout le temps avec elle. Et moi, j'étais donc la plupart du temps à l'hôpital, et le soir, je rentrais chez moi pour dormir, et le lendemain matin, j'arrivais de nouveau.
D'accord.
Finalement, après 3 jours, on a pu sortir de l'hôpital et la ramener chez nous.
Ok. Bon, super. Donc, du coup, comment est-ce que vous décidez de l'appeler, alors, cette petite fille?
Alors, le premier prénom a été donné par la mère biologique. Mmh. Le premier prénom, c'est Kim. Comme Kim, ça peut être aussi bien un nom masculin qu'un nom féminin. On a donné un deuxième prénom que nous avons choisi et on l'a appelé Kim Jolie, avec un trait d'union. Mmh. Et on voulait quelque chose de français aussi.
C'était important pour toi de transmettre ton héritage culturel aussi un peu par ça.
Puis on a pensé à Angelina Jolie, et puis Jolie, ça veut dire belle, et puis elle est magnifique. C'était vraiment parfait. Le prénom était parfait.
Donc, vous rentrez à la maison, la vie se passe bien, donc tu as tes 2 mois auprès de ta nouvelle famille. J'imagine que c'est beaucoup d'émotions, tout ça.
Incroyable.
Et en parlant de trucs incroyables, il se passe d'autres trucs incroyables. Tu peux me raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé?
Encore plus incroyable, oui, effectivement. Juste sur le début, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que j'ai pu être ces 2 mois directement avec l'enfant. Et ce qui était aussi bien, ma femme n'a pas allaité ce bébé. Parce que moi, je trouve que c'est plus facile pour moi, en ayant maintenant la comparaison, d'avoir eu une relation avec mon premier enfant plus facilement qu'avec mon deuxième enfant, de par cette différence qu'elle n'ait pas été allaitée. Parce que moi, j'ai pu aussi activement lui donner le lait, les biberons. Pour continuer l'histoire, on a appris peut-être 2-3 mois après la naissance de Kim Jolie que ma femme est enceinte, qu'elle est tombée enceinte naturellement.
C'est dingue ça.
Incroyable. Et en fait, c'est parce qu'elle a eu un retard dans ses règles. Et nous, on mettait ça tout le temps donc sur l'émotion, quoi. Passer une période quand même assez stressante, il faut réorganiser sa vie par rapport au bébé, que peut-être que c'était lié à ça, ou lié aux hormones aussi. Hein. Il y a des hormones qui sont sécrétées aussi quand on est parent adoptif. Et on se dit, c'est ça, c'est pour ça qu'elle a passé règles normalement. Et au fond d'elle, ma femme avait quand même un ressenti qu'elle pouvait être enceinte, mais elle me l'a pas dit. Elle m'a juste dit qu'elle aimerait faire un test. Et moi, j'ai dit, c'est impossible, jamais de la vie, on a 0,03% de chance que tu tombes enceinte, c'est pas possible.
Et en fait?
Et en fait, finalement, c'était vraiment le cas. et ma femme m'a dit, en fait, tu connais ce problème de toxoplasmose?
Toxoplasmose?
Exact. Quand on a des chats, et ma femme m'a dit, fais la literie des chats. Occupe-toi-en. Et moi, je lui ai toujours dit, moi, je veux une preuve que tu sois enceinte avant que je fasse ça. Et finalement, dès qu'on a eu le test, le trait était tout de suite très, très rouge. Il était plus rouge que le trait témoin et incroyable. Grande joie, immense joie. On a quand même, mais après, on a quand même eu du respect. On s'est dit, waouh, 2 enfants aussi rapprochés. Ça va pas être facile quand même.
Ouais, donc ça veut dire que Kim Jolie a 3 mois à ce moment-là. Et donc que vos enfants vont avoir moins d'un an d'écart, en fait.
Exactement.
D'un an d'écart.
Et je pense, si on calcule vraiment, je pense qu'elle a dû être enceinte 1 mois après la naissance de Kim.
Ouais.
En fait, il y a exactement à peu près 9,5 mois d'écart entre les deux filles.
C'est fou.
Et du coup, j'ai pu vivre une grossesse aussi, finalement. Incroyable.
C'est dingue. Mmh. Et la grossesse s'est bien passée?
La grossesse s'est bien passée. À savoir, en revenant sur la PMA, on a détecté aussi un problème de coagulation du sang chez ma femme. Et ce test, on l'a pas fait tout de suite. On l'a fait, je crois, après 3-4 essais. Ça veut dire que ma femme a dû prendre de l'aspirine et aussi se piquer. Parce qu'à savoir si le sang est mal coagulé, il y a le problème que l'embryon ne tient pas. Ça fait qu'elle a été suivie aussi lors de la grossesse de Clara. Elle a été très suivie, ma femme. On a eu très, très régulièrement des échographies. Et l'avantage, c'est que moi, je pouvais toujours être aux échographies parce que les échographies étaient toujours un samedi.
C'est chouette, ça.
C'est chouette. Et j'ai pu la voir très, très souvent. Mmh. Et j'ai vraiment adoré. J'étais quasiment toujours avec. Et la grossesse s'est très bien passée, pour revenir à ta question. Moi, j'étais de nouveau au boulot. Et puis, ma femme était toute seule à la maison avec Kim. Alors, t'imagines encore une grossesse où ça se passe mal?
D'accord.
Je pense que c'est le destin qui nous a aidés à ce que ça lui, qu'elle aille bien aussi. Parce que peut-être ouais. Dieu ou je sais pas, quelqu'un savait qu'elle avait besoin d'aller bien pendant cette période. Ouais. Parce qu'elle a une petite personne qui devait compter sur elle, quoi. Et tout s'est très bien passé. Et maintenant, à cause du corona, je suis en home office. Depuis que j'ai repris le boulot, parce qu'il faut savoir que pendant le corona, à ses débuts, j'étais en congé paternité de nouveau pour Clara. Ça fait que mon dernier jour de travail, je l'ai fait en home office. Et mon premier jour après les 2 mois, je l'ai continué en home office. Et depuis, je suis en home office. D'accord. Et du coup, c'est très bien pour dès qu'il y a un problème avec les enfants. Et dès que je me fais un café ou si je vais aux toilettes, ben, je vois mes enfants et c'est très agréable.
Ah bah oui, j'imagine. Super, d'accord. Bon, et félicitations alors du coup. Donc,
merci.
Tu es papa de 2 petites filles en moins d'un an. C'est complètement dingue. Qu'est-ce que tu voudrais dire en fait? Qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce que tu voudrais dire aux couples en fait qui galèrent et qui se disent et pourquoi pas l'adoption?
Je veux dire qu'il faut pas avoir peur d'adopter. Parce que moi, ce que j'ai appris et ce que je ne doutais pas une seconde, c'est qu'on peut aimer un enfant adopté aussi fort qu'un enfant biologique. Dès ce premier regard, dès la première fois que je l'ai pris dans mes bras, c'était ma fille. Et incroyable l'amour que je lui porte aujourd'hui. Et pour nous, ce qui est aussi d'incroyable, c'est que c'était encore plus fort émotionnellement la naissance de Kim Jolie que la naissance de Clara. Parce qu'il y a aussi ce côté, c'est mon premier enfant. Il y a aussi toute l'histoire, tout le combat qu'on a eu derrière qui a encore amplifié la joie. Et l'autre message, c'est qu'il faut jamais perdre espoir. Que nous aussi, malgré les chances très faibles, on est arrivé à avoir un enfant biologique. Un enfant surprise.
Et alors, aujourd'hui... La famille est au complet ou est-ce que vous pensez qu'à terme...
On ne sait pas encore. Comme on a encore ces 2 embryons congelés, on ne sait pas encore. En tout cas, pas pour tout de suite.
Oui, bien sûr. Elles ont quel âge, les petites?
Le 28 juin, Kim Jolie va avoir 21 mois. Mm-hmm. Bientôt 11 mois pour Clara, le 17 juin.
Et ouais, ça vous occupe quand même, hein, ça. Hein, c'est... Est-ce qu'il y a quelque chose que toi tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans cette sacrée aventure pour devenir papa?
Peut-être que ma femme aurait dû être prise psychologiquement plutôt en charge lors des PMA, aussi bien sur l'adoption que sur la procréation médicale assistée. On a été très bien informés.
Et mais écoute, c'est super, on est super heureux pour vous quatre.
Merci.
On vous souhaite tout plein de bonheur. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour la suite? Finalement, la vie a l'air d'être plutôt chouette là en ce moment.
Que tout le monde reste en santé. Que ces satanés virus disparaissent.
Ouais.
Parce que c'est assez compliqué avec la famille. Du coup, ça fait un moment que j'ai pas vu mes parents. Mmh. Et qu'on a envie que nos petits-enfants profitent. Mais que nos enfants profitent de leurs grands-parents de nouveau. Là, on autorise de nouveau les contacts, mais c'est vrai qu'on a été très strict pendant le confinement et que c'était pas facile pour tout le monde.
D'accord, bah écoute, c'est tout ce qu'on vous souhaite, que tout le monde reste en parfaite santé et puis que votre petite famille reste toujours aussi heureuse. Écoute Yves, je te dis un grand, grand merci d'avoir pris le temps de nous raconter votre histoire. On vous souhaite tout le bonheur du monde et puis je te dis à très bientôt.
À très bientôt, merci.
Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. Merci infiniment à mon invité pour son partage et merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir le podcast, parlez-en autour de vous, partagez-le avec votre entourage afin vraiment de permettre à toutes les femmes, hommes, couples qui passent par là de retrouver ces témoignages pleins d'informations, d'espoir et de bienveillance. Sinon, rendez-vous sur Apple Podcast pour donner 5 étoiles au podcast et lui laisser un petit message afin de nous aider à gagner en visibilité. Si vous souhaitez venir débattre, poser des questions à propos du dernier épisode avec la communauté, rejoignez-nous sur Instagram @alorscestpourbientôtpodcast et pour témoigner, direction le site internet alorscestpourbientôtpodcast.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver mercredi prochain.
Et l'histoire se poursuit, ce désir d'enfant continue de s'écrire dans le temps. Il ne diminue jamais et croissant, et finit les mois sans espoir. Quand l'échec est froissant, nos rêves comme une boule de papier à jeter. Le fond, le succès n'est pas à atteindre, je n'ai pas pied. Y croire c'est parier, chemin alternatif, qu'est-ce qui va faire la diff? Au final c'est la nature qui décide, faut-il s'acharner? La peur d'échouer comme celle du vide, on prend des cheveux gris et des rides. Nouveau chemin, celui de l'adoption. Ici, il faut être patient. Panoramique, tu as encore de la potion magique. Il m'en faut en barrique de la force pour quand ça se corse. J'adore ce feeling de se dire que ça va marcher. D'arrache-pied pour le succès, enfin l'arracher. Bien amarré pour quand la réussite arrive. Je l'ai oublié, le thème s'est noyé. Dans un lac, où il fait beau dehors, voyez. Un sac avec goûter et soda, plus de raison de broyer du noir, on devient l'ami du soir. Je l'ai oublié, le thème s'est noyé. Dans un lac, où il fait beau dehors, voyez. Un sac avec goûter et soda, plus de raison de broyer du noir, on devient l'ami du soir. On cherche des raisons pourquoi mes soldats sont de mauvaise qualité. Par voie naturelle, presque aucune chance d'y arriver. Seulement s'il se passe un miracle, chaque five coûte beaucoup trop d'argent. Ça aussi c'est rageant qu'on considère l'infertilité comme une maladie. Que cela devienne un droit, celui de donner la vie. Et si ça ne marche toujours pas, thérapie, jusqu'au jour où chaque couple est ravi d'accueillir son enfant. Avant cela, tu m'entends, militer pour l'infertilité, un peu de publicité. L'idée c'est qu'on en parle beaucoup plus, car juste trop de couples concernés fusent. Viens signer la pétition, problème de société, et nous t'avertissons. Le grand public, nous le ciblons, et visons plus de compréhension d'apathie. On va réussir, on parie. Je l'ai oublié, le thème s'est noyé. Dans un lac où il fait beau dehors, voyez. Un sac avec goûter et soda, plus de raison de broyer du noir, on devient l'ami du soir. Je l'ai oublié, le thème s'est noyé. Dans un lac où il fait beau dehors, voyez. Un sac avec goûter et soda, plus de raison de broyer du noir, on devient l'ami du soir.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.